réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard.
Eh oui, bonsoir chers auditeurs, eh oui, c'est la réussite éducative de retour, émission 2, ça va David ?
Ça va bien, ça va bien.
C'est sympa, donc là on fait la suite de la semaine dernière.
On fait la suite de la semaine dernière, exactement.
Et si vous avez raté le premier épisode, il est les jeudis à 16h bien sûr, comme à chaque fois. Et sinon, tout ça c'est un podcast, même YouTube, parce que carrément, même là YouTube, on a filmé et tout.
Carrément.
Oh, c'est trop génial. Et là on va poursuivre l'émission de la semaine dernière. Très belle émission d'ailleurs, on avait reçu une maman avec Noah, son fiston, qui joue de la musique, de la trompette. Elle nous avait parlé du rôle de parents, ce rôle si important, le rôle invisible des parents, des mamans, et au quotidien, etc., etc. Puis on avait reçu aussi deux jeunes filles fort sympathiques que tu connaissais bien. Hein. J'ai oublié leur nom, c'est pour ça que je t'attends la perche.
Oulia et Bouchra.
Merci, c'était super. Voilà, et c'était super génial. Et la semaine prochaine, vous retrouverez bien sûr une vie associative pour deux émissions d'affilée où on recevra bien sûr Laurence des Restos du Cœur, puisqu'on rentre bientôt au mois de mars dans une campagne nationale des Restos du Cœur. On reparlera du Secours Populaire, vous le savez, 27 et 28 février, le Secours Populaire sera... à Oudemont, c'est quoi déjà anciennement le Cora, c'est Carrefour je crois. Car oui, elle m'avait dit oui la maman la semaine dernière. Donc à Carrefour, bien sûr, dans la galerie, deux jours du Secours Populaire. Moi je serai à leur côté 2-3 heures le samedi après-midi, donc le 28. Également le 14 mars, place Maginot, Secours Populaire, où je viendrai clowner un petit peu. La semaine prochaine, je vous ferai aussi un retour. C'est impossible du fait des enregistrements et des dates, tout ça. Mais la semaine prochaine, en vie associative, je vous ferai un retour de la journée du 25 janvier avec le triathlon pour le Téléthon 2025 qui n'est pas terminé. Vous le savez, la cagnotte est toujours ouverte et on trouve le lien sur le Facebook Chamallow Saltimbanque ou sur le site de notre belle station RCN 90.7. Le triathlon qui va également servir, qui a également servi, j'espère qu'il s'est bien passé celui-là, hein. Je ne peux pas vous en dire plus, mais également servi à porter un éclairage sur l'association Le Jour d'Après qui vient en aide aux personnes en deuil et qui se trouve rue de Serres à Nancy. Super association à laquelle on a consacré deux grandes émissions de vie associative il y a 2 semaines et il y a 3 semaines. Voilà, on retrouve tout ça en podcast. C'était une super association. Je vais tout de suite fermer la parenthèse. Si jamais on filme, je crois qu'on filme, parce qu'on n'a que du beau monde en plateau aujourd'hui, donc on filme. Hein. J'ai toujours ce ballon 36-37. Mais bien sûr, vous, là, pour le Téléthon 2025, vous ne faites pas 36-37, vous allez carrément sur la cagnotte, qui n'est pas sans rapport avec RCN, puisque le triathlon sera accompagné par Julien de RCN, que l'on salue. Et on remercie Jean-Luc à la technique pour cette émission de réussite éducative. Et tout de suite, pour ce magnifique tour de table, on va passer la main à David. À tout de suite.
Est-ce que c'est pertinent ?
Faire un tour de table avec une personne ?
Non, mais est-ce que... D'abord, oui.
C'est ça,
mais est-ce que c'est pertinent, dans la mesure où on est filmé et où les gens peuvent effectivement suivre sur la chaîne YouTube, de montrer le ballon avec 36-37 si c'est pas le numéro qu'il faut...
Bah non, mais si, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, il est toujours ouvert.
D'accord.
Mais c'est vrai que...
on privilégie.
On privilégie, voilà.
C'est ça.
Voilà. Si, bien sûr, ils peuvent. Mais je vais montrer le côté où c'est pas marqué.
Voilà. Non mais je me suis demandé, je me suis dit tiens.
On peut le faire toute l'année, mais c'est vrai que on préfère toujours au niveau de la coordination 54. C'est toujours préférable si vous allez sur les cagnottes du département. Ça ne change rien à la finalité après de la somme au niveau national, mais c'est vrai que c'est toujours bien de valoriser notre petit département parce qu'après ça facilite aussi la mise en place des actions des années suivantes, etc., etc. Ça donne une crédibilité. Voilà. Mais là, tu as raison, David. Voilà. Si je vais montrer un numéro qui n'est pas du tout,
pas inutile. C'est comme si on allait chercher ses œufs. À la ferme ou au petit marché de producteurs plutôt qu'au supermarché.
C'est ça, tout à fait. Ouais.
Ah, ça, du coup, ça donne une image négative du national. C'est pas bon non plus.
Ouais, ouais,
ah non,
ouais.
C'est pas bon. On n'arrive pas à trouver le bon.
On trouvera la bonne comparaison. Ouais. Là, bon. Si c'est filmé, les gens ont vu qu'on a un plateau très riche.
Alors, on va faire un tour de table, effectivement, qui va aller vite, mais il va être un peu fictif, puisque normalement, des gens devraient arriver en cours de route. Alors après, il y a effectivement des empêchements possibles et tout. On sait qu'on a quelqu'un qui vient de relativement loin en bus, que ça peut être très compliqué. Donc je vais commencer par les personnes qui ne sont pas là, mais qu'on va peut-être accueillir. Mais on pourra pas faire le tour de table après.
J'essaie un petit peu.
On espère. Normalement, il y avait Mehdi et Zacharia, un père et son fils qui devaient nous rejoindre. Donc voilà, ils ont peut-être eu un empêchement. J'attends des nouvelles. Et puis on devait avoir Eva qui était déjà venue nous faire une chronique il y a 2 mois maintenant, ouais, il y a 2 mois, sur l'accompagnement scolaire. C'était sa première chronique, elle s'en était très bien, elle avait vraiment travaillé sa chronique, c'était chouette. Et voilà, là elle va essayer d'être là ce soir, mais effectivement elle sort du lycée, elle se dépêche pour revenir, elle doit prendre le bus, il suffit qu'il y ait le moins de problèmes au niveau des bus et elle risque d'arriver pas mal en retard si elle arrive. En tout cas, tout ça, ça nous fait du beau monde. Mais en plus, on a une composante aussi, une cheville ouvrière de ce beau monde qui se trouve aujourd'hui face à nous. Claire, comment vas-tu ?
Eh bien, ça va très bien, merci.
On va prolonger le sujet donc de la semaine dernière sur le métier invisible de parent qu'on avait abordé avec une j'allais dire une très relative légèreté puisque on a un petit peu rigolé, on a pas mal souri, mais il y a quand même eu des paroles qui implicitement laissaient entendre un petit peu voilà, on n'en pouvait pas développer en 55 minutes. C'est bizarre à dire, hein, mais c'est un sujet qui est tellement vaste en fait. Mais on sentait bien que il y avait peut-être des choses à dire sur les moments où les larmes coulent. Et où on n'en peut plus, et puis sur comment on surmonte ces moments-là. Moi, je me souviens de Bouchra, du haut de ses 14 ans, qui disait aussi que... moi, j'ai adoré ce moment où elle explique que on surmonte ces moments-là quand, à la fin de la journée, finalement, on se retrouve tous au salon. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça super chouette. Et que c'est le moment où on peut discuter, où on peut rire, où on peut se raconter notre journée. Et en fait, par cette espèce de quotidien et de récit du quotidien, ça permettait quand même de resserrer des liens qui... par ailleurs, peuvent être mis à mal à d'autres moments de la journée. On a cité, ça paraît tout bête dit comme ça, hein, on a cité la douche, on a cité les devoirs, ça paraît très bête, mais après, voilà, on est bien conscient qu'il y a des effets d'accumulation, des choses qui se jouent dans le temps. Il y a d'autres choses qui se passent autour dans la cellule familiale qui vont se cristalliser sur des moments qui, apparemment, n'ont pas de rapport, alors qu'ils en ont ô combien. Et je suppose que c'est un petit peu de tout ça qu'on va parler aujourd'hui, puisqu'on va effectivement évoquer quand cet épuisement parental, quand ce métier invisible de parent devient impossible, quand les moments de réconfort et les moments qui permettent de tenir ne suffisent plus. C'est je me permets de garder cette comparaison, je l'avais dit en plaisantant, mais finalement je la trouve pas si mal. C'est un peu Apocalypse Now, on va jusqu'au bout du fleuve, dans les régions un petit peu plus obscures. C'est même pas comme ça que j'ai envie de le présenter, mais en tout cas où les choses tournent au-delà de la maîtrise qu'on peut en avoir. On va dire ça comme ça, si ça te convient, Claire.
Très bien.
Avant toute autre chose, je propose quand même qu'on fasse une petite pause musicale parce que les émissions précédentes, alors on est sur une série pas ultra joyeuse,
c'est vrai.
Les émissions précédentes, on avait évoqué le deuil de l'enfant principalement et un petit peu tous les sujets périphériques à cela. On n'était pas que là-dessus, mais on était un peu sur cette idée-là. On avait quand même réussi à terminer sur des notes plutôt positives et souriantes après 2 heures qui avaient été assez riches en émotions. On avait beaucoup évoqué justement la musique et les chansons qui évoquent ce sujet. Et comme je le disais quand tu es arrivé, Claire, j'ai entendu une chanson qui m'a percuté par rapport à ce sujet et qui permet un petit peu de rappeler ce sujet-là, mais de le rappeler sous forme d'hymne et d'hommage un petit peu combatif, ce qui complète très bien les choses un peu plus introspectives qu'on avait pu entendre précédemment. Jean-Luc, je te laisse opérer.
Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes. Je chante leur douleur, qu'elles pères de mère ou pères de fils. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes vaillantes, à la gloire des femmes en or, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes piliers. Je chante leur bravoure, elles qui portent sans jamais plier. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes coriaces, à la gloire des femmes trésors, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes fragiles. Je chante la peine de ces colosses aux pieds d'argile. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en pleurs, à la gloire des femmes que j'honore, et ce jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores unies jusque devant la mort.
Vous n'êtes pas seul. Alors ça y est, vous venez de signer votre CDI. Je veux bien sûr parler de votre contrat à durée illimitée. Voyons maintenant votre fiche de poste. Alors, puéricultrice, psychologue, éducatrice, animatrice, cuisinière, ménagère, veilleuse de nuit et de jour aussi d'ailleurs, infirmière, secrétaire avec spécialisation en rendez-vous, confidente, chauffeur personnel, négociatrice de haut niveau, professeur particulier, banquière. Et cette liste est évidemment non exhaustive. Vos missions évolueront dans le temps. Il me semble bien sûr nécessaire de vous préciser que vous êtes susceptible de travailler 7 jours sur 7, de jour comme de nuit. En ce qui concerne les vacances, c'est vraiment pas pour tout de suite. Messieurs, on embauche aussi. Dernière petite précision, il vous faut héberger votre employeur. Mais votre rémunération vaut tout l'or du monde, puisqu'elle se fait en bisous, en câlins et en colère parfois aussi. Vous êtes donc devenu parent. C'est bien évidemment un tsunami dans votre cœur. Vous aimez plus que tout ce petit être qui vient de bousculer votre vie. Mais si on célèbre la magie de la maternité, on parle très peu de ce qu'elle implique vraiment. Pourtant, accueillir un enfant, c'est également accomplir des dizaines de tâches invisibles, néanmoins indispensables. C'est répondre aux pleurs, s'inquiéter de tout. Vous êtes toujours disponible, vous mettez un point d'honneur à manger bio, à ce que votre maison soit impeccable, vous pratiquez le cododo, vous allaitez, ou bien vous tirez votre lait en vous rendant à votre travail où votre patron vous félicite d'être toujours aussi efficace. Tout est maîtrisé. Mais dormir est un souvenir lointain. Aïe, aïe, aïe.
Je porte ma maison sur mon dos, mes chansons, mon enfant sur mon dos, tes émotions qu'il faut taire et la guitare en bandoulière. Ça fait lourd, ça fait trop. Ça fait lourd, ça fait trop.
Ah oui, il vous en faut du courage, de la force pour tout assumer. Et puis, vous la voyez, cette pimpante influenceuse sur TikTok et ses pseudo-méthodes Montessori, comme votre copine d'ailleurs sur Insta, qui, elle, n'a aucun problème. Elle est au resto ou bien encore au parc avec ses enfants, toujours souriante. Pas comme Marine Leonardi, écoutez.
Je n'en peux plus, je suis épuisée.
Je suis présentement au parc où je surveille une petite fille depuis une demi-heure qui, je viens de m'en rendre compte, n'est pas ma fille.
Alors si vous aussi, il faut que vous preniez du temps pour vous. Sachez une chose, vous n'êtes pas seule.
Vous êtes parent, vous êtes heureux, mais épuisé. Vous vous investissez à 100%, ou plutôt à 200%. C'est ainsi qu'insidieusement peut s'installer un burn-out. Alors, pas celui qui vous fait hérisser le poil quand on vous parle du travail, non, 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 mais celui qui fait que vous ne supportez plus le mot « maman ». Celui qui fait qu'il vous est intolérable de penser à passer du temps avec votre enfant. Celui qui fait que vous êtes persuadé que vous êtes une mauvaise mère ou bien un père éclaté. Vous vous énervez sans cesse, le moindre bruit vous agresse, une question de trop, une colère, et c'est parti. Ça explose. Vous êtes donc victime du syndrome du burn-out parental. Tout comme le professionnel, il reste un sujet tabou. Mais en ces temps où la santé mentale est un enjeu majeur pour notre société, libérons la parole. Parlons de vous. Vous vous impliquez donc à 200%, mais n'est-ce pas trop pour vos frêles épaules? Et vous, dans tout ça? Vous pliez sous le poids des injonctions sociales? Votre cerveau prend des milliers de décisions quotidiennement. Vous portez cette fichue charge mentale, émotionnelle, elle est lourde et épuisante. S'installe alors un déséquilibre entre le stress que vous subissez et les moyens de vous ressourcer. Alors non, vous n'êtes pas seul. En France, on compte 6% de personnes victimes de ce syndrome. Si les pères ne sont pas épargnés, ce sont principalement les mères qui en souffrent. Vous voulez être parfaite, mais attention, spoiler, ça n'existe pas. Vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit d'être fatiguée et de le dire. Même si notre société individualiste vous laisse bien isolée, vous n'êtes pas seule. Une mère, une sœur, une amie, une voisine pourrait prendre le relais pour vous permettre d'avoir du temps pour vous, rien que pour vous. Prendre soin de vous, c'est aussi prendre soin de votre bébé. De votre enfant. C'est reprendre son souffle pour chasser cet épuisement mental, physique et cette distance émotionnelle que vous ressentez vis-à-vis de votre enfant. De plus, des professionnels appartenant au dispositif de santé mentale peuvent vous accompagner vers la guérison qui arrive en quelques semaines. Des relais existent. Le site Burnout Parental d'Isabelle Roskam et Moira Mikolajczak vous donne les coordonnées des personnes formées autour de chez vous. Si votre mal-être est insupportable, je vous invite à appeler d'urgence ce numéro gratuit 0800 130 000. Car il faut le dire clairement, le burn-out parental peut s'accompagner de pensées suicidaires. Alors n'oublions pas qu'en Afrique, un proverbe dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et vous savez quoi? Vous n'êtes pas parfait, alors c'est parfait.
Que c'est chouette, jolie fin.
Merci.
Merci Claire.
Merci à vous.
C'est un sujet, pardon.
Oui, vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y. Moi j'allais dire des évidences, mais allez, je les redis parce qu'il y a peut-être des nouveaux auditeurs. Mais... t'es super bien écrit.
Ah, merci.
Et mais pas seulement l'écriture, mais les idées, l'enchaînement des idées. Enfin voilà, tu cernes assez rapidement, comme ça, un laps de temps assez court, ce qui est une prouesse, hein, l'art de la brièveté en littérature. C'est, et tu vois, la substantifique moelle du sujet abordé, et ça, c'est toujours ça qui m'impressionne. Parce que c'est, des fois, c'est difficile de faire court. Hein.
Oui, et, oui, oui, ça, là, hein, ça a été un petit peu compliqué pour moi de faire court, parce qu'il y a plein de choses que j'aurais voulu rajouter. Et parce que c'est un sujet... très, très large et tabou. Mmh. Mais bon, c'est vrai que dans une chronique, j'y mets l'essentiel, enfin, ce que je peux, et voilà ce qui me semble important.
Et tu sais, c'était un ministre de Louis XVI, un jour, lui remettant un rapport, il lui disait « Sire, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de faire plus court. » Et c'est vrai que des fois, il faut plus de temps hein, pour condenser, oui, contracter, ouais, et aller vraiment à l'essentiel.
C'est un vrai travail.
Mmh. C'est un vrai travail, ouais. Donc ça, bravo, tu t'en sors bien.
Merci.
Alors justement, tu vas pouvoir développer, figure-toi, parce que manifestement, mes autres invités ont été empêchés d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, on disait qu'on développerait peut-être dans une émission suivante, on va peut-être pouvoir développer du coup directement. Moi j'avais juste une petite question super factuelle sur ta chronique, quand tu dis 6% des personnes en France sont touchées par le burn-out parental, est-ce qu'on... On est sur la base de 6% des parents, hommes et femmes confondus, ou c'est quoi est-ce que tu as le détail?
Alors, il y a plus de femmes que d'hommes. Cependant, les hommes sont victimes aussi du burn-out parental. Il y a à peu près 50% des parents qui se disent fatigués. Mais sur le burn-out parental, on est en moyenne... Alors, sur la France, on est à peu près à ce taux-là. Mais en moyenne, selon les pays, on est de 3 à 10, 11%.
D'accord.
Selon les pays. Et on va dire qu'il y a des facteurs aussi aggravants, des personnes, bah déjà les familles, les parents isolés, les familles dont l'enfant est porteur de handicap, ça rajoute des facteurs supplémentaires de burn-out, d'inquiétude, de solitude. Il y a plein de choses. En fait, chaque burn-out a son histoire parce que chaque famille a son histoire et la genèse, elle est différente pour chacun d'eux. Mais c'est remédiable et c'est remédiable en quelques semaines, mais en étant suivi par des psychologues et en faisant des visites régulières. Ça ne se guérit pas comme ça. Mais un vrai burn-out parental, alors c'est un véritable épuisement. Ça se distingue quand même du burn-out professionnel par rapport à la distanciation avec l'enfant. Mais un vrai burn-out parental, on peut en arriver à ce que j'ai dit, que le parent ne puisse même plus entendre le mot « maman ». Moi, durant ma formation, j'ai vu des exemples de mamans qui ne pouvaient même plus entendre ce mot. C'était insupportable. Et qui oublient des choses. Et, alors, attention, ce sont toujours des parents... investis. C'est pas des parents qui, dès le départ, ne s'investissent pas dans la parentalité, la maternité, la paternité. Mmh. Non, ce sont des parents qui ont été très investis, voire surinvestis, justement. Et c'est ce surinvestissement qui fait qu'en fait, ils arrivent à ce burn-out parental. Mais ils en arrivent à des états physiques d'épuisement, à ne plus pouvoir se lever. Enfin, on est sur quelque chose de vraiment dramatique et grave. C'est pas la simple fatigue à se dire « non mais moi j'en peux plus ce soir, il faut que je sorte ». Là on est bien nous deux, là on parle vraiment de cet état d'épuisement.
Donc on est vraiment finalement dans quelque chose qui... Est-ce que le mot pathologique est adapté hein,
Ah voilà, oui, c'est vraiment une pathologie.
Moi, ça me donne l'impression qu'on... Alors, j'aime pas trop... Je ne sais pas comment le dire correctement, donc j'ai comme utilisé quelque chose de très insatisfaisant, mais en tout cas un État qui déresponsabilise entièrement le parent par rapport à ce qu'il est en train de vivre.
Ah
alors,
oui.
Peut-être tu peux me corriger sur le terme, c'est peut-être pas le bon terme, mais...
Ce que je dirais, c'est qu'il n'a pas à culpabiliser de ça, c'est ça, je pense que tu entends par
oui,
là.
C'est, oui, voilà, oui, c'est oui, oui, oui.
Non, il faut vraiment se déculpabiliser vis-à-vis de ça. C'est vraiment une maladie. C'est pas un simple ras-le-bol. Et c'est aussi encore différent d'un postpartum.
Oui.
Parce que le postpartum, c'est hormonal. C'est hormonal. C'est encore différent d'une dépression. Alors, c'est une sorte de dépression, mais en fait, la cause, elle en est vraiment la parentalité. C'est vraiment, enfin, comme son nom l'indique, le burn-out parental, c'est encore différent de la dépression. Et une dépression postpartum, elle arrive en général dans les quelques mois après la naissance, alors que le burn-out parental peut arriver des années après.
Oui.
Et avec la situation qu'on vit actuellement et tous les jeunes qui continuent à vivre chez les parents alors qu'ils ont... je ne sais pas, 25, 30, 40 ans, hein, on peut même dire les tanguis, voilà, exactement. Je voulais en parler, mais je n'avais pas assez de temps.
On t'en donne.
Merci, bah justement, c'est bien d'avoir la parole, un petit peu de pouvoir développer. Et donc, ça ne veut pas dire que ce sont uniquement les parents d'enfants jeunes, des parents d'ados, des parents de tanguis peuvent tomber dans le burn-out parental.
Excusez-moi, mais quand vous parliez tous les deux de déculpabilisation, ça c'est donc personnel, hein, la personne qui... Voilà, c'est bien de le dire, mais il y a aussi du coup, inversement, dans un effet miroir, je pense que c'est aussi bien de souligner que du coup, par rapport aux autres, le regard extérieur doit être bienveillant,
ah, évidemment.
Compréhensif.
Évidemment, ouais. et ça c'est pour ça que je voulais, j'en ai parlé, d'ouvrir la parole, parce que c'est pas très connu le burn-out parental, et puis c'est un peu tabou, et alors... Il y a très peu d'études dessus. En fait, ça fait très peu de temps qu'on en parle. Les chercheurs dont j'ai parlé là, pendant la chronique, elles sont vraiment spécialisées là-dessus, parce qu'il y en a une des deux qui a été victime de ce syndrome. Mais jusqu'avant, dans la littérature, il y a eu très très peu de choses. Et elles ont dû tout reprendre à zéro. Alors... Il y a plusieurs facteurs qui font... Alors, le burn-out parental existait déjà. Ça, c'est pas nouveau. En revanche, il y a des facteurs aggravants où, en fait, dans l'histoire, c'est complètement nouveau d'avoir une explosion de burn-out parental. Et ça, c'est dû... Il y a plusieurs facteurs. Déjà, les droits de l'enfant. Et tant mieux, hein. Et tant mieux, on va pas s'en plaindre. Mais c'est vrai qu'il y a 50 ans, un enfant, il avait pas la parole. Les rôles étaient très distincts entre le père et la mère. Le père allait travailler, la mère restait à la maison, s'occupait du foyer. Et maintenant, il y a une interpénétration des rôles, c'est-à-dire que la mère, ben, elle va travailler parce qu'elle n'a pas le choix. Enfin, je parle pour un grand pourcentage de couples. Hein. Je ne généralise pas, mais c'est quand même le cas pour de nombreux couples, de nombreuses familles. La mère est obligée de travailler. Obligé ou à envie, attention, ou à envie. Oui, hein, enfin, voilà, la mère travaille, voilà, pour quelque raison que ce soit. Et donc, le père, lui, vient en aide, ce qui fait qu'en fait, les tâches sont doublées pour les uns et les autres. Et ça fait un facteur supplémentaire. Le facteur qui joue aussi, et là, j'en ai parlé, ben, c'est les réseaux. C'est les réseaux, parce qu'en fait, il y a des comparaisons qui se font avec les copines, avec ce qui se fait avec l'influenceuse qui dit « Ah non, mais moi, je fais ça, je fais ça. » Mais en fait, on n'a absolument pas le côté... on a uniquement ce qu'elles veulent montrer. Ouais. Mais ce qu'elles vivent, ça, on ne le sait pas du tout. La copine, elle ne vous dira pas, bon, si, à part si c'est vraiment une amie et qu'elle vous appelle en disant bah, « Moi, je ne vais pas bien. » Mais sinon, les moments-là, ils sont cachés, c'est tabou. On n'en parle pas. Et donc, en fait, ça crée des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, mais c'est un facteur supplémentaire. Donc, en fait, dans l'histoire, il n'y a jamais eu de facteur aussi important pour que le burn-out explose dans les nombres.
Quelles conséquences sur les parents et sur les enfants, en fait ?
Alors, sur les parents, une distanciation émotionnelle complète vis-à-vis de l'enfant. Il n'a plus envie de s'en occuper, mais plus du tout. Ça peut être, j'ai oublié le sac. Ça peut être, j'ai pas envie de m'occuper de toi. Je vais me coucher parce qu'en fait, il y a un état physique aussi qui n'est plus là. Ouais. Enfin, qui est... les gens sont... Quand on parle d'épuisement, hein, le burn-out parental, c'est l'épuisement parental. Il y a un épuisement physique. Quant aux enfants, ils en subissent les conséquences. Ils voient un peu leurs parents dans cet état-là. Ils peuvent se replier sur eux-mêmes. Ils peuvent, si c'est des bébés, il peut aussi y avoir des moments de retour. Par exemple, un bébé qui faisait ses nuits ne les fait plus. Un repli, un manque d'appétit. Enfin, il peut y avoir. Enfin, l'enfant est subit par rebondissement les effets du burn-out parental.
Oui, une forme de, entre guillemets, de contagion, finalement.
C'est ça, c'est ça. Ouais. Oui. Dans... C'est une victime collatérale.
Dans un couple, comment ça fonctionne, sur peut-être en général, si... Enfin voilà, comment dire, dans un, les parents sont tous les deux présents au domicile, les parents sont... Voilà. Quand un des deux parents est victime de burn-out parental, est-ce que l'autre suit ? Est-ce qu'on a des couples qui sont en burn-out parental simultanément ? Comment ça fonctionne, ça ?
Alors là, je n'ai pas de chiffres, mais oui, ça peut plonger. Hein. Ça peut plonger parce que ça double les tâches du deuxième parent qui reste, puisque le premier ne peut plus assumer, que ce soit le père ou la mère, le premier ne peut plus assumer, donc deuxième, il a les épaules deux fois plus lourdes par les charges qui sont doublées, les enfants emmenés à l'école, aux activités, que sais-je, chez l'assistante maternelle, à la crèche. Donc ça double les charges, et donc il faut avoir aussi des respirations pour le deuxième parent. C'est pour ça que je n'ai pas dit de laisser reposer de laisser l'enfant... Au deuxième parent, j'ai dit à chercher une voisine, une amie, parce qu'il faut aussi que le deuxième parent souffle. Mmh. Alors, dans les remédiations, il y a les temps de repos. Et on parle de vacances. Alors après, tout le monde ne peut pas partir, mais si, par exemple, il est évoqué de prendre des vacances pour se reposer, il vaut mieux prendre plusieurs fois 3-4 jours qu'une fois 15 jours, parce qu'il y a un effet psychologique qui fait qu'il y a une attente. Et en fait, déjà rien que de savoir que je vais partir en vacances, il y a une amélioration, quelque chose de positif qui se passe dans ma tête. Et donc, il vaut mieux le répéter plusieurs fois plutôt que de faire une seule fois.
C'est intéressant parce que la semaine dernière, Aurore qui était là, la maman qui était présente, évoquait le fait qu'elle disait texto, il y a des fois j'aimerais bien partir en vacances, oui. et elle a dit, je l'avoue, le terme est quand même vachement marqué, je l'avoue, j'avais envie de partir en vacances toute seule, et ça elle l'a dit clairement, elle l'a dit clairement.
Ouais. Et le burn-out parental n'épargne pas, loin de là, les mères au foyer, loin de là, parce qu'en fait, elles sont là, t'es là. Tu peux le faire. En fait, tout repose sur leur épaule. Même si elles ne vont pas travailler à l'extérieur, il y a pas mal de burn-out parental, de parents au foyer.
On n'était pas sur le sujet exact du burn-out. Hein. On parlait effectivement
de repos,
la fatigue, de la fatigue, de machin, etc. Ça, j'ai dit ça, mais je me rends compte que j'ai peut-être dit un truc que je ne maîtrisais pas complètement. Après, je suis quand même convaincu de ça. C'est que... qu'on ait un enfant ou qu'on en ait 6 ou 7, on avait l'exemple de Oulia qui est dans une très grande fratrie ou de Noah où ils sont que entre guillemets, encore une fois, que deux, j'ai l'impression que c'était pas forcément ça le facteur. Non, ça peut être un facteur qui complique ou ce qu'on veut, etc., peut-être à certains points de vue, mais c'était pas fondamentalement le facteur qui pouvait amener à un burn-out parental.
Non, c'est pas le nombre d'enfants. Alors ça peut, mais c'est pas le nombre d'enfants. Et une situation qui complique aussi, dans les facteurs aggravants et déclencheurs, c'est notre société qui est très individualiste, alors qu'en fait, avant, y avait les grands-mères qui vivaient à la maison, qui aidaient. Et maintenant, les familles sont isolées, sont seules. Donc, c'est ce que je disais en conclusion. En Afrique, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Mais c'est vrai. Et le fait d'être seul, vraiment, ça aggrave ce phénomène.
Après, c'est une réalité qui est fréquente ici sur le territoire. Hein. On a énormément de familles qui sont pudiquement appelées monoparentales, oui. Donc une extrême majorité de femmes qui sont seules avec leurs enfants. Moi, c'est super intéressant parce que pour revenir sur l'aspect professionnel dans le cadre de la réussite éducative, pardon, c'est des situations que je vois quand même assez souvent et où on peut être amené en tant que travailleur social si on n'est pas suffisamment sensibilisé ou formé. Je viendrai sur la question de la formation derrière si tu as des billes là-dessus. Et je pense que je m'inclus dedans, hein, ça peut être mon cas, où des fois on a du mal d'évaluer et de comprendre ce qui se passe en face de nous dans le discours des parents, dans la façon dont on voit les choses se passer pour les enfants. C'est compliqué, c'est un sujet qui est difficile à aborder en fait, de dire clairement à un parent qui est là, bah, moi j'ai l'impression que vous devriez faire attention parce que quel conseil tu donnerais du point de vue des professionnels, alors, travailleurs sociaux, dans les EAJE, enfin, dans les établissements d'accueil des jeunes enfants, les crèches, etc. Quel conseil tu donnerais pour aborder ce sujet-là avec des parents quand on s'inquiète?
Alors, donner des exemples d'autres parents. Parce qu'en fait, se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre ça, je pense que ça peut dédramatiser et déculpabiliser, justement. Et peut-être arriver à en parler, à se dire, ah bah tiens, finalement, moi aussi. En donnant des exemples d'autres personnes qui peuvent le vivre, alors d'une manière ou d'une autre, et pour une raison différente ou pas. Mais dire qu'on est, ben, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et puis après, peut-être aussi donner des conseils aussi, dire qu'on peut s'appuyer sur la famille, sur les amis, et puis se renseigner auprès des professionnels. Ouais. Et alors, les professionnels dont j'ai parlé, là, en fait, donc, ils sont formés au burn-out parental. Souvent, ce sont des psychologues. Et alors, pour déterminer s'ils sont en burn-out parental ou pas, c'est très simple. Elles ont monté une grille. Et selon comme on encoche ou pas, et voilà, et à la fin, le résultat est là, c'est burn-out ou pas.
Oui. Je rappelle juste ce que tu disais, hein, le site burn-out parental en termes de ressources et le numéro d'urgence,
alors,
dire.
Oui, je peux le rappeler. Alors, c'est un numéro gratuit. Hein. C'est le 0800 130 000. Alors, c'est valable pour le burn-out parental, mais en fait, c'est un site d'urgence pour les gens en détresse. D'accord. C'est pas nécessairement que pour le burn-out parental. Okay. Voilà. Là, j'ai donné un numéro général. Mais
ouais, donc, c'est pas plus mal. Hein.
Oui. Mais voilà. Mais parce qu'en fait, situations. La santé mentale actuellement, c'est tellement un sujet qui nous préoccupe. Et donc, oui, on peut arriver à trouver des personnes qui veulent se suicider.
Ouais.
Et il y en a plein. Justement, dans les témoignages que j'ai vus, il y a des parents qui disent « Mais moi, je préférerais être mort que de vivre ce que je vis. » Et donc, il y en a qui passent à l'acte.
Ouais.
Donc, c'est pas du tout anodin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est remédiable et rapidement. En fait, les psychologues formés vont donner des petits trucs, des tips qui vont aider, et puis bien sûr une aide psychologique, mais aider à remonter la pente.
Je propose qu'on fasse une petite pause pour respirer après tout ça. Bon, la chanson nous fera peut-être pas tant respirer que ça, mais sur des sujets comme ça, moi je trouve qu'on retrouve toujours certaines artistes, et en l'occurrence Anne Sylvestre qui n'est jamais très loin,
ouais.
Dans ces cas-là avec... Oh, j'ai plus le titre exact en tête, on va l'écouter, je le redonnerai après. Merci Jean-Luc.
Surtout ne dis rien à ta mère, elle en mourrait. Laisse-la avec ses chimères, sois sans regret. Elle est si vulnérable et tendre, si désarmée qu'elle ne pourrait pas comprendre. Mais à côté, qu'elle ne voudrait pas m'entendre. En liberté, vous vous trompez. Maman, elle n'est pas si bien que ça. C'est pas Thérèse d'Avila, c'est loin d'être la Sainte Vierge. Ça ne l'amuse vraiment pas, vos précautions et vos gamberges, vos silences au bruit de ses pas. Ce qu'elle veut, c'est pas des cierges, votre respect lui reste là. Sincèrement, je n'aime qu'elle. C'est bien ainsi, étant jeune, elle était si belle.
Elle a grossi, je lui dis c'est sans importance. Tu es très bien, tu as la santé, c'est une chance. Ne change rien, je lui ai caché la balance. C'était malsain, oui mais enfin, oui mais enfin. Maman a des désespoirs fous, c'est pas Bernadette Soubirou, c'est pas la grande sœur des anges. C'est pas mamie, c'est pas Doudou. Savez-vous bien pourquoi elle mange? C'est pour se protéger de vous. Elle se voit, elle se venge. Elle ne s'aime plus du tout. Si elle cherche encore à plaire, je ne crois pas, elle a eu tellement à faire. C'est loin tout ça, si elle a eu quelques histoires. Tu me fais rire, pourtant j'ai fait semblant d'y croire. Pour la tenir, ses déprimes sont illusoires. Il faut bien dire, c'est à mourir, c'est à mourir. Maman a des rêves de feu, c'est pas Thérèse de Lisieux. Et parfois les regrets lui montent. Quand on lui dit avec ses yeux, vous ne deviez pas faire le compte des soupirants, des beaux messieurs. Si vous saviez, vous auriez honte. Ça lui casse le corps en deux. Mais ne voulez-vous pas comprendre, aveugle et sourd, qu'elle meurt de manque de tendre. Besoin d'amour, elle a longé les précipices. Sans le savoir, elle hait tous les sacrifices. Tous les devoirs, elle voudrait tellement qu'on puisse lui en vouloir. C'est sans espoir, c'est sans espoir. Maman, elle est bien mieux que ça. Mais c'est la reine de Saba. C'est Cléopâtre et la Joconde. Bardot et Lolo Brigida. C'est évident pour tout le monde, sauf pour vous qui ne voyez pas que vous avez chaque seconde étouffé la femme en vos bras. Mais il suffit d'une secousse, d'un coup au cœur, elle se fera la peau douce. Vous aurez peur, elle réveillera en elle celle qui dort. Elle se souviendra d'être belle sans trop d'efforts. Elle fera des étincelles, perdra le nord. Oui, mais alors, oui, mais alors. Maman, elle va vous étonner. C'est Madeleine et Salomé, c'est Pompadour et Lavalière. Mais c'est Gabrielle d'Estrée. C'est la dernière des dernières. C'est tout sauf ce que vous croyez. C'est une femme qui n'a guère. C'est tout simplement oublié. C'est Madeleine et Salomé. Maman, elle va vous étonner. C'est pas Thérèse d'Avila. Maman, mais c'est pas du tout ça.
Jusqu'à 18h, Réussite éducative sur RCN, animée par Chamallow et David Richard.
Et donc, voilà, Anne-Sylvestre nous évoque un petit peu le côté, comment dire, enfin, c'est pas ce qu'elle évoque directement, mais moi, ça me fait penser à cette injonction, donc tu reparleras, Claire, de prendre du temps pour soi, et prends un peu de temps pour toi, vas-y, décroche, etc., etc. Encore faut-il pouvoir le faire, encore faut-il avoir un endroit pour le faire, parce qu'à tout cela, peuvent venir s'ajouter tout le reste. Et moi, effectivement, dans mon travail, ce que je vois souvent, c'est les stress et les difficultés socio-économiques qui sont de temps en temps de l'ordre qui touche au vital quasiment. Hein. Et je pense en particulier là une dame que j'ai rencontrée qui est hébergée en, pour faire simple, en foyer. On va pas rentrer dans le détail. C'est-à-dire que il y a un enfant qui est porteur d'un handicap assez lourd en termes d'autisme. Il y a trois plus grands enfants. Et il y a deux chambres. Et tout le reste est collectif, les douches sont collectives, la cuisine est collective, etc. Et moi, c'est quelqu'un qui me questionne beaucoup, en fait, au-delà de l'admiration que je peux avoir et, du respect que j'ai pour ce qu'elle arrive à faire, parce qu'en fait, elle arrive quand même à se mobiliser, à se débrouiller. Et puis pour finalement toute la fratrie, en fait, c'est de la science-fiction quasiment, de se dire mais comment les gens peuvent tenir dans ces conditions-là et comment leur reprocher de ne pas tenir aussi conditions-là. Ouais. Et je voulais revenir un peu sur cette espèce de double peine, parce qu'il y a le regard aussi extérieur, il y a le fait que ça peut être assez invisible, moi c'est le sentiment que ça me donne. Ouais. Et effectivement, il y a l'école, il y a les travailleurs sociaux, quand il y a des travailleurs sociaux, il y a tous les regards extérieurs qui des fois peuvent être dans une vraie incompréhension quand soi-même d'ailleurs on n'est peut-être pas en totale conscience de l'état dans lequel on se trouve.
C'est très difficile de se l'avouer à soi-même. Déjà, même de le savoir, en fait, de savoir qu'on puisse être en burn-out parental, parce que déjà, c'est pas connu de tout le monde. Tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un burn-out parental et peuvent mettre ça justement sur le dos d'une dépression. Si l'enfant est bébé, sur le dos d'un postpartum, tout le monde n'est pas au courant de ce qui peut se passer dans la tête et dans le corps d'un parent en burn-out. Donc, c'est déjà difficile de le détecter sur soi-même, de se l'avouer, de déculpabiliser. Et pour les personnes qui sont en face, c'est compliqué aussi à détecter. Je pense que de toute façon, c'est des professionnels qui le font. C'est des professionnels, même en rencontrant quelqu'un comme ça, on peut se douter qu'il y a des débordements, qu'il y a un épuisement. Mais il n'y a qu'un professionnel qui pourra y mettre le mot burn-out parental et qui va le détecter et qui va le prendre en charge. Il n'y a que des professionnels qui puissent le faire ça, des professionnels de la santé.
Est-ce qu'on peut finalement parler d'une... Enfin, tant que ce n'est pas diagnostiqué, est-ce qu'on peut parler d'une douleur invisible, socialement invisible ?
Ah, bien sûr que oui. Oui, oui, socialement invisible. Mais il y a aussi un facteur dont je n'ai pas parlé, mais qui est sous-entendu. Tu parlais des injonctions. Mais il y a plein d'injonctions pour les parents actuellement. C'est les injonctions aux parents parfaits, à la pédagogie positive. Attention, je suis pour la pédagogie positive, mais le problème, c'est qu'elle a été très galvaudée, tout comme Maria Montessori, la pauvre, c'est complètement galvaudée. Et en fait, chacun fait sa sauce. Et en fait, la pédagogie positive, c'est pas du tout ce qu'on en dit. Et le parent n'ose même plus dire non à un enfant, où il se culpabilise. Mais en fait, le parent devient débordé à force d'injonctions qui sont dites et d'injonctions invisibles.
Oui, puis de montrer qu'on respecte les injonctions. Avec toute l'attention qu'il peut y avoir dans le fait qu'on peut être conscient d'une certaine manière qu'on ne les respecte pas. Enfin, il y a toute une façade sociale aussi qui se met en place autour de ça et qui est, dans tous les cas d'ailleurs, burn-out ou pas, mais d'autant plus dans ces conditions-là, qui est excessivement lourde à porter.
Ah oui, oui, c'est vraiment lourd. Mais je voulais juste faire un petit aparté, tant que j'y pense. Dans le magazine Assistante maternelle de ce mois-ci, qui est pour les professionnels mais qui est en vente en kiosque, il y a tout un cahier sur la parentalité et justement sur tout ce qui est invisible par rapport au métier de parent et à la parentalité trop lourde. Voilà, je m'excuse, je fais la petite parenthèse. je digresse, mais c'est tant que j'y pense.
Non,
voilà.
C'est bien, c'est important.
Donc on est sur la promotion extérieure, je crois que j'en avais déjà parlé quand on avait abordé le deuil d'enfant, mais je le redis sur une autre radio, qui n'est pas une radio locale, mais sur France Culture, toujours les pieds sur terre que je cite en permanence, j'en suis désolé, mais c'est d'une telle qualité, il y avait effectivement eu, alors je l'ai recherché vite fait, là je ne l'ai pas retrouvé, faut rechercher dans la grille, dans les podcasts des pieds sur terre, un reportage ultra intéressant, un témoignage très intéressant sur deux mamans qui regrettaient d'avoir eu des enfants, et qui le formulaient, et qui le disaient, et qui expliquaient comment elle faisait. Alors c'était des gens qui avaient déjà beaucoup travaillé, qui étaient déjà passés, qui étaient déjà passés au-delà de ça, et qui du coup étaient en mesure d'expliquer à quel point ce regret-là ne signifiait pas nécessairement qu'elles n'aimaient pas leurs enfants, qu'elles n'accompagnaient
pas
leurs enfants, mais qui arrivaient en fait à formuler et à dire explicitement, voilà, je regrette d'avoir eu des enfants, si c'était à refaire, je n'en aurais pas. Après, je m'en occuperai avec tout l'amour du monde et toute la bienveillance du monde. Mais, et je trouve que c'est intéressant que rien que ça, on puisse le dire très, peut-être très loin en amont de tout ce qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire que des gens puissent avoir la liberté de dire qu'ils le regrettent. Ou de le penser, en tout cas.
Déjà,
après,
au moins,
on peut
se
poser la question de comment les enfants l'entendent, etc. Mais au moins, de savoir se le formuler pour soi, ça permet peut-être déjà d'être un peu plus au clair. Je ne sais pas si c'est...
Mais alors, à voir aussi si elles ont eu cet enfant parce qu'elles le désiraient,
bien sûr,
si elles ont répondu à des injonctions sociales,
tout
familiales.
Tout à fait.
Ça peut être le cas aussi.
On est sur des sujets.
Vous faites méditer, là. Tellement de choses à dire.
La prochaine fois, on fera un sujet sur les barbes à papa ou un truc comme
ça. Oui,
les pop-corn aussi, non. Sur le pop-corn, ça pourrait être une bonne idée. Je réfléchis à haute voix. Je fais une conférence de rédaction. Parce qu'on fait des conférences de rédaction, bien entendu.
Ah ouais, bien sûr. Bah, après, si tu restes du temps.
On s'appelle pas du tout 10 minutes avant.
Je pense que Claire, comme moi, on est prêt à poursuivre.
Mais je me dis que ça pourrait être intéressant si on poursuit. Et j'aimerais bien qu'on poursuive avec des parents le mois prochain qui seront là. Je le dis pas en forme de reproche, hein, mais en espérant qu'on ait ces paroles-là aussi, je trouve que ce serait intéressant. Et éventuellement, peut-être des professionnels de l'enfance ou de la petite enfance, ça pourrait être bien qu'on reprenne ce sujet-là tous ensemble, parce que ça touche plein de monde. Enfin, ça concerne beaucoup de monde, étant donné qu'une... Généralement, les familles avec des enfants en bas âge sont plutôt relativement suivies, ne serait-ce que par la PMI, mais c'est pas toujours le cas.
Non, c'est pas toujours
le cas. Il y a des gens qui vont se retrouver très isolés par rapport à ça, et c'est à ça que je voulais en venir, justement. Ouais. Comment sont pris en charge, en fait, des gens qui vont se retrouver très isolés pour plein de raisons différentes, ou comment ne sont-ils pas pris en charge?
C'est plutôt ça, parce qu'en fait, si... Elles ne font pas la démarche d'aller vers un travailleur social, vers un personnel de la santé. Elles sont invisibles. Ou alors, à moins qu'elles soient détectées par peut-être une enseignante, un personnel de crèche, et qui tire le signal d'alarme. Mais sinon, c'est des personnes qui restent invisibles.
Est-ce qu'on peut dire, enfin, je pense à ça parce que le CPN, le Centre de psychothérapie à Nancy, met en ce moment des formations sur les premiers secours en santé mentale, qui sont super intéressantes. Là, j'en ai fait une, c'était absolument passionnant. Et c'est vrai qu'on n'a pas évoqué précisément ça parce qu'on ne peut pas tout évoquer, mais finalement, moi, ça me met à cogiter sur le fait que toutes les personnes... enseignants, pareil, on parlait des crèches, travailleurs sociaux qui peuvent être en contact avec des parents, quelle que soit la raison, ça serait peut-être intéressant qu'ils soient formés sur ces choses-là, ne serait-ce qu'à minima, en tout cas sensibilisés.
Oui, c'est
sans
ça,
parler de formation,
sensibilisation.
Forcément, parce que c'est lourd à mettre en place. Mais
oui, bah quand tu évoques l'autisme, je parle d'autisme, hein, donc qui est déjà quelque chose qui est beaucoup plus connu. Je pense qu'à l'Éducation nationale, ils n'ont pas beaucoup d'heures de modules sur les formations d'autisme. Donc, imagine le burn-out parental.
Oui, non, mais oui. C'est dommage d'ailleurs que.
Ah, c'est fort dommage.
Avec les politiques d'inclusion, on ne forme pas les gens en conséquence.
Je confirme.
C'est un petit peu dommage.
Je suis d'accord.
Non, mais oui, je le redis. Donc, voilà, pour les professionnels, en tout cas sur le secteur, ces formations tournent en ce moment. Ils les remettent en place assez régulièrement et ça vaut vraiment le coup de les faire. Même si, en plus, initialement, on se dit non, mais moi, je connais bien les sujets-là. Non, en vrai, c'est bien de faire avec des gens dont c'est le métier.
Oui. Les personnes, alors elles sont en Belgique, hein, elles sont à l'université de Liège. Les personnes dont je parlais sur le burn-out parental, Isabelle Roskam et bon, elles sont toutes les deux psychologues. Elles sont toutes les deux cliniciennes et elles font des formations. Et sur le burn-out parental, et elles ont écrit pas mal de livres, donc ça peut être des ressources qui sont intéressantes. Et en fait, elles se sont intéressées au burn-out parental parce que déjà, Moïra en a été victime, si je puis dire.
Est-ce que tu disais ?
Et en fait, Isabelle Roskam a 5 enfants, et elle était spécialisée sur les émotions. Et donc, bah, des émotions jusqu'au burn-out parental, le lien a été rapidement fait. Et donc, c'est elle, en fait, la littérature contemporaine sur le burn-out parental, c'est elle.
Est-ce qu'il y a... parce que la question se pose sur un certain nombre de choses, sur l'endométriose, même sur les règles, même sur beaucoup de choses. Est-ce que le fait qu'à un moment, justement, des hommes dans les couples commencent à être diagnostiqués autour du burn-out parental, c'est le petit, la petite partie quand même, mais c'est important de le dire. Est-ce que c'est aussi un facteur qui a permis de commencer à s'y intéresser? Est-ce que c'est quelque chose qui fait que, ou pas, parce que ça avait l'air d'y avoir une corrélation dans le temps, en tout cas, sans parler de causalité?
Je suis pas bien sûr, je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est le fait du nombre croissant de burn-out parental qui fait. Alors qu'il y ait des hommes, je suis pas sûre que ça soit le fait qu'on s'y intéresse plus.
Bah c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, 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 oui,
je suis très heureux.
Oui, oui,
j'aurais été déçu de
ce que tu en dis, parce que ça aurait été ça aurait été un petit peu dommage sinon.
Après, je ne l'affirme pas, mais je ne pense pas.
Je pense à ça
pas.
Parce qu'on avait eu, il y a quelques mois, années maintenant, on avait reçu une jeune fille sur la question de l'endométriose et on avait quand même pas mal mis en lumière le fait que, le fait que les hommes ne soient pas concernés, en tout cas dans leur corps, par cette question-là, avait très, très, très clairement ralenti la recherche à ce sujet et l'acceptation, en fait, de la pathologie. Beaucoup de choses. Est-ce que toi, on nous reste un peu moins de 5 minutes, la dernière pause musicale sera effacé si Chamallow a peut-être des choses à dire. Et a des choses à dire, en général, la pause musicale
la va pause être effacée. Musicale, non, mais je vais pas te laisser la pause musicale, mais je ferais bien un lien avec l'émission de la semaine dernière où on avait entendu la maman parler de larmes, etc. Donc on n'était pas dans le burn-out, encore une fois, mais on a fait deux émissions que ça va crescendo. Et elle avait parlé des difficultés qu'a rencontré son enfant de 12 ans. Et ça m'a fait penser, quand tu as fait ta énumération au début, où tu avais dit handicap aussi, les éléments qui peuvent se surrajouter, complexité vécue par les parents, les mamans ou les papas seuls, etc. Enfin bref, les parents. Ça m'a fait penser à ça, c'est qu'on dit toujours que les enfants sont des éponges, mais les parents aussi. Et parce qu'on parlait aussi des coups de colère la semaine dernière, tu sais, des moments où, par fatigue, les parents vont crier, etc. Et puis, il y avait une des jeunes filles qui disait qu'elle, du coup, elle criait aussi. Alors, ça faisait des moments de tension. Et ça m'a fait penser à ça un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a aussi des parents qui, après coup, on avait parlé avec la maman, s'en veuillent d'avoir gâché un moment de la vie de famille, un moment important, etc. Mais après, du coup, il faut apprendre à se désaxer et à sortir d'un cercle vicieux, parce que du coup, on s'en veut. Du coup, on est encore un peu plus sombre, et on rentre comme ça dans un effet boule de neige. Et alors, il y a ça, et puis il y a aussi les difficultés qui se surrajoutent, parce que quand tu as fait ton énumération, il y a aussi le fait qu'un enfant, à l'école, il peut être peut-être harcelé. Rejoint d'autres choses, ou vivre des difficultés, ou être triste. Et un parent, c'est aussi une éponge. Hein. On le dit pas assez des parents, mais de voir une porte de chambre fermée, un enfant taciturne, on sait pas trop ce qu'il a, etc. Mine de rien, soit sans vouloir à soi, quand on a crié, comme ce qu'on évoquait la semaine dernière, ou soit prendre comme une éponge la souffrance d'un enfant qu'on a du mal à saisir. Pourquoi? Est-ce qu'il a un chagrin d'amour? Est-ce qu'il est harcelé à l'école? Pourquoi il va pas bien, etc. Mine de rien, un parent, on le dit pas assez, mais il prend tout ça comme une éponge aussi. Il sait pas toujours comment répondre. Il est triste le soir pour s'endormir parce qu'il aimerait tellement rendre son enfant heureux et il en sent la souffrance. Mais tout ça, ça se surrajoute comme un effet de millefeuille. Alors, on n'est peut-être pas encore dans le burn-out, mais c'est des éléments qui, par rapport à l'émission de la semaine dernière, finalement, il n'y a pas que... Pour les parents, l'invisible, c'est pas que le travail, le linge, ça. Il y a aussi tout ce qui l'englobe d'émotions, en englobant l'émotion de son enfant. Et tout ça, je pense, c'est tout aussi lourd à porter que le linge, la douche, le machin, etc. Je pense que les deux se superposent. Parents, c'est du travail extérieur, mais c'est aussi du travail intérieur.
Évidemment.
Et ça, faut le dire, ça doit complexifier tout
c'est
ça.
C'est une véritable charge mentale. Et d'ailleurs, le burn-out parental, j'en ai parlé par rapport à l'équilibre, mais c'est vraiment une balance entre tous les stresseurs qu'il peut y avoir, dont ceux dont tu viens de parler, et les ressources. Et une fois que les stresseurs sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus violents, je dirais, beaucoup plus fréquents que les ressources, la balance se déséquilibre et on va vers le burn-out parental. Et en fait, les psychologues, Moira et Isabelle Roskam, ont mis en place un protocole qui rééquilibre la balance.
C'est marrant parce que ça me fait penser à ce que disait Oulia la semaine dernière, quand sa mère craque un petit peu, donc pareil, on n'est pas dans le même contexte, hein, on est sur quelque chose de plus mesuré. Elle dit que c'est pas la peine d'essayer d'aller la consoler parce que ça va être encore pire et elle va encore plus crier. Ce qui n'était pas le cas de Bouchra, qui disait qu'au contraire, elle essayait d'aller la voir et que soit sa maman lui expliquait, mais qu'elle comprenait pas. Et ça, c'est intéressant aussi qu'elle ait dit ça, ou que sa maman, à ce moment-là, avait besoin de s'isoler. Mais la première réaction sur je vais la voir, mais en fait, il faut pas aller la voir parce qu'en vrai, ça va être encore pire et elle va crier encore plus. Je trouve que c'est intéressant justement sur cette idée que la ressource qui peut être sa fille qui va tenter de la consoler finalement ne fait pas le poids.
Oui, parce qu'en fait chacun a son mode de fonctionnement. C'est comme un enfant. Il y a des moments où il a besoin d'être consolé et on peut le consoler, on peut le prendre. Et des moments où tu l'approches, tu le vois, c'est même pas.
C'est
même pas. C'est inapprochable à ce moment-là. Et nous, on fonctionne pareil. On a des moments où on a besoin d'être consolé et des moments où non, on a besoin d'être seul.
Et c'est tout l'art de la vie de famille ou amicale, enfin la vie avec autrui, c'est de sentir les moments où on peut pas. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est toute la difficulté du relationnel.
Et je vais terminer sur en rappelant ce que disait Bouchra, c'est quand on arrive à se retrouver toute la famille à discuter,
c'est beau,
pas devant un écran, pas en écoutant autre chose, mais à rigoler ensemble et à se raconter nos journées, que des fois la balance.
Et oui, voilà, c'est exactement comme ça la ressource.
En tout cas en prévention.
Et passer du temps de qualité, de qualité. Alors, déculpabiliser les mamans, les papas qui travaillent, l'important c'est du temps de qualité.
Oui, c'est vrai.
Merci.
Et nous à la radio, on était, chers auditeurs, grâce à vous et avec vous, ensemble, nous aussi. Et c'était un bon moment. À bientôt.
À bientôt.
Merci.